BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
L'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours et la blockchain contient une fraction de cet avenir. C'est pour ça qu'on vous en parle de la blockchain et des cryptos, de leur potentiel. Chaque vendredi, les pros des cryptos viennent de nous rejoindre. Claire Balva, bonjour Claire.
Bonjour.
Cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Vincent Gann aussi vient de nous rejoindre pour TradingView France. Bonjour Vincent, rebonjour.
Rebonjour Guillaume.
Et une fois n'est pas coutume, Owen Simonin se repose aujourd'hui. Oui, ça lui arrive aussi parfois. Et c'est donc son acolyte Thibaut Boutroux qui a la gentillesse de le remplacer aujourd'hui. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes à la tête des opérations pour Just Mining. Et on salue Owen à distance qui nous écoute sans doute. Claire et Vincent, un conseil à apporter à Thibaut pour sa première sur BFM Business aujourd'hui?
Oui, il faut être sous coup les aînes.
Ouais.
Bon, zen. Ouais. Moi j'en ai un conseil. Si l'arbre droit finit en planche, l'arbre tordu lui fait sa vie. C'est un proverbe chinois. Soyez un arbre tordu et sentez-vous parfaitement libre sur ce plateau. Thibaut, vous êtes chez vous, vous jouez à domicile.
Merci.
Et bienvenue à tous sur BFM Business. Tout le monde a attaché sa ceinture. C'est parti. Bon. Et vous pouvez retrouver aussi les meilleurs moments de ce rendez-vous hebdomadaire sur notre nouveau fil Twitter consacré à la blockchain, notre fil BFM Crypto. Vincent, champagne cette semaine, la semaine de tous les records sur certaines cryptos et le Bitcoin. Record historique pour le cours du Bitcoin et la capitalisation totale des crypto-monnaies. Comment l'analyse technique peut-elle nous permettre de nous projeter désormais alors que le marché nous emmène sur des plus hauts jamais vus, je dirais même en terre inconnue désormais?
Oui, voilà, où on, dans le jargon, on dit price discovery, dans le jargon crypto, mais tout de même, il y a eu une petite déception cette semaine. Alors effectivement, le cours du Bitcoin et la capitalisation boursière crypto totale sont sur leur record historique, on est sur les niveaux. Un peu de contexte, ça fait 3 semaines que le cours de Bitcoin monte de manière verticale, depuis les 40 000 dollars, 50% de hausse en 3 semaines. Et ce milieu de semaine, il se présente au contact de son record historique. Il y arrive et il a tenté un dépassement immédiat. Il a tenté une cassure technique haussière, c'était mercredi. Et malheureusement, ça n'a pas été un signal d'accélération. Le marché, le lendemain, a retracé. Et on pouvait là s'inquiéter, un nouvel échec à 65 000 dollars, ça va s'effondrer. Et en réalité non. Deux choses. La hausse depuis 3 semaines, elle est portée par les capitaux institutionnels. On va en parler dans un instant, via les contrats à terme, les contrats futurs. La hausse était verticale. On ne pouvait pas continuer sur ce rythme-là. Donc c'est bien de marquer une pause. Moi, j'ai un scénario de trading range, de pause latérale sous ces 63-65 000 dollars, avant ensuite une vraie tentative de dépassement. Un peu à l'image de ce qu'on avait fait en novembre-décembre 2020, lorsqu'on avait rejoint les 20 000 dollars, qui était l'ancien record historique. Et puis d'autre part, depuis hier, ce qu'on observe, c'est que le Bitcoin a passé le témoin. Il a passé le relais aux fameuses altcoins, qui, là, pour la plupart d'entre elles, sont en train de tenter de faire de nouveaux records historiques. Donc voilà, la correction d'hier, ce n'est pas le début d'un crack crypto comme au printemps dernier. Mais là, le Bitcoin, il marque une pause. Et c'est très bien comme ça. C'est beaucoup plus sain de monter en construisant la hausse.
C'est plus sain de marquer quelques paliers. Non, mais voilà, des paliers techniques. On rappelle qu'il faut investir en crypto-monnaie, que l'argent que l'on est prêt à perdre, ou en tout cas l'argent dont on n'a pas besoin. Depuis l'impulsion haussière du Bitcoin qui a débuté le 30 septembre, ce sont surtout, et vous venez de le dire, les institutionnels qui ont nourri la tendance. Et cette semaine, Lux Fiat, que la lumière soit, cette semaine a surgi un nouvel ETF Bitcoin. Est-ce qu'on arrive, Vincent, à mesurer dans les records battus cette semaine le rôle qu'ont joué les fonds Bitcoin qui étaient déjà auparavant validés par les régulateurs et ce tout nouveau fonds dont tout le monde nous parle depuis mardi dernier? Quel rôle a-t-il joué dans ces records?
Oui, alors pardon, il y a beaucoup de choses à dire puisque ça va être traité, donc je vais essayer d'être bref. Effectivement, cette semaine, la SEC, la SEC, le régulateur boursier aux États-Unis, valide ETF Bitcoin. Pourquoi? Parce que les précédents, ils disaient non. Cet ETF a la particularité d'être basé sur les contrats futur Bitcoin de la bourse de Chicago. La SEC, vous savez, aux États-Unis, il y a 2 régulateurs. Il y a la SEC et il y a la CFTC, la toute puissante agence qui régule les contrats à terme. C'est le pays des contrats à terme, c'est le pays des contrats futurs. Donc forcément, là, un ETF qui va diriger des capitaux vers les contrats futurs Bitcoin de la bourse de Chicago, voilà, ça va amener des capitaux sur leur marché à eux. Donc cela s'explique. Il y avait effectivement déjà des ETF dans le monde, en Europe, aux États-Unis, qui sont des ETF synthétiques pour la plupart d'entre eux. Ils ne font que reproduire la variation du BTC. Donc oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans l'adoption par Wall Street, la haute finance américaine, des cryptos, du Bitcoin en général. C'est vraiment la trajectoire inverse à la Chine. On peut aussi parler, vous savez, des activités de mining. Les mineurs, beaucoup, je crois que la plupart d'entre eux ont quitté la Chine et une grande partie d'entre eux sont allés aux États-Unis. Donc, sans les États-Unis, sans Wall Street, honnêtement, on ne peut pas compter sur l'Europe pour porter ces projets-là, pas encore. jamais le Bitcoin ne serait remonté à son record historique. Donc oui, je pense que ça a été décisif.
Décisif aussi pour ces nouveaux records du cours du Bitcoin.
Oui, ouais, tout à fait.
Et voilà, tout ça a été parfaitement concomitant et c'était en milieu de semaine, mardi, que ce nouvel ETF a fait ses premiers pas. On a eu le sentiment que sur le marché, ce nouvel ETF Bitcoin, c'était un peu comme l'apparition du divin enfant, que la finance avait accouché du divin enfant. Il n'empêche, il y a peut-être des critiques qu'on peut porter sur cet ETF. On va en parler de façon très très pratique. On peut même se mettre clair à la place de ceux qui nous écoutent et qui peuvent se demander pourquoi s'intéresser à un ETF Bitcoin pour investir sur le Bitcoin, puisqu'on peut le faire directement en Bitcoin. Est-ce qu'à votre avis, il vaut mieux privilégier l'investissement direct en Bitcoin ou plutôt à travers un ETF comme celui que la place nous propose désormais ?
Alors, ça dépend en qui vous êtes, ça dépend si vous êtes un particulier ou une grande entreprise. L'ETF Bitcoin, ça a un côté très pratique, finalement, pour plein d'entreprises ou plein d'investisseurs qui sont habitués à détenir des actions. Puisque, du coup, vous allez pouvoir trouver indirectement du Bitcoin chez votre broker habituel. Et donc, vous n'allez pas avoir besoin de vous inscrire sur une plateforme d'échange. Vous n'allez pas avoir besoin de faire de la custody de Bitcoin. Donc, ça va vous épargner, quelque part, les frictions de ce nouveau monde. Parce que les personnes qui s'intéressent du jour au lendemain à Bitcoin, souvent, elles découvrent un monde très complexe. Et donc là, quelque part, ça normalise Bitcoin et ça le fait rentrer dans les institutions beaucoup plus classiques. Après, il peut y avoir aussi un avantage, je dirais, réglementaire, comptable, fiscal, selon là où vous êtes basé, qui va vous donner un avantage en termes d'imposition. Le Bitcoin, c'est parfois un actif qui n'est pas toujours complètement défini comptablement, juridiquement. Et donc, un ETF Bitcoin, ça va rassurer. Et donc, ça va permettre à des grands comptes, à des institutionnels, d'investir dans Bitcoin sans prendre le risque, finalement, d'avoir dans leurs actifs du Bitcoin, ce qui est parfois un peu complexe à gérer.
Et plus globalement encore, Thibault, l'arrivée de cet ETF Bitcoin qui a fait beaucoup parler alors qu'il existait déjà des ETF Bitcoin par ailleurs, pourquoi est-ce qu'à votre avis on a vu autant d'emballement? Pourquoi est-ce que ça fait autant de bruit cette fois-ci alors qu'il en existait, on disait déjà, qu'est-ce qu'il a de plus celui-ci? Comment est-ce que vous analysez ce bruit qui a nourri et voire qui a complètement inondé la semaine sur les marchés financiers?
Oui, effectivement, il en existe déjà beaucoup, on en a même un en France. Ce qu'il apporte, cet ETF, au marché aujourd'hui, c'est un message rassurant. Un message rassurant parce que ça fait longtemps qu'on attendait cet ETF de la SEC. Jusqu'alors, ils s'étaient toujours opposés à ce qu'il apparaisse. Et là, ils ont laissé passer. Donc, c'est plutôt un message rassurant. Surtout dans un contexte où on a parlé juste avant des mineurs chinois qui ont été un peu bannis du pays. Donc, la Chine qui prend une position défavorable face aux cryptos. Et là, en quelques semaines, on a eu la Russie qui se positionne favorablement par l'intermédiaire de Vladimir Poutine. Et les États-Unis à leur tour qui envoient un message positif. Donc, c'est plutôt encourageant pour la suite.
Et pendant ce temps, pendant que la finance a couché cette semaine du divin enfant, en quelque sorte, c'est ironique bien sûr, eh bien, en France, la montagne parlementaire a, elle, accouché d'une souris. Sans transition, on vous emmène dans les arcanes législatives françaises. Messieurs, dames, la commission des finances de l'Assemblée nationale aurait pu transformer, simplifier même la fiscalité sur les gains en crypto-monnaie. Ce ne sera pas le cas. Finalement, c'est niette. La commission des finances a rejeté la plupart des nouveaux amendements du député Pierre Person sur la fiscalité des crypto-actifs. Claire, quels amendements ce député proposait-il et en quoi est-ce que, s'ils avaient été adoptés, en tout cas, ces amendements auraient changé la vie de ceux qui détiennent des cryptos?
Alors, Pierre Person, effectivement, on l'appelle presque un crypto-député maintenant parce que c'est quelqu'un qui porte beaucoup les sujets crypto et on le remercie. On remercie aussi l'ADAN, qui est l'Association pour le développement des actifs numériques, qui a beaucoup œuvré pour ces amendements. Alors, il y avait un peu deux objectifs, à mon sens. Il y avait un premier objectif qui était de réparer l'injustice fiscale qu'on voit entre les crypto-actifs et les actifs financiers traditionnels. Donc, par exemple, il y a un amendement qui a quand même été adopté et qui va permettre d'éviter que des investisseurs particuliers soient injustement requalifiés en traders professionnels. Et donc, c'est un amendement qui était vraiment nécessaire, qui avait même été demandé en 2017. Donc, heureusement que celui-ci a été adopté. On avait aussi un amendement qui devait permettre de reporter ses moins-values sur la cession en crypto-actifs, ce qui aurait permis d'harmoniser le régime entre les crypto-actifs et les actifs financiers traditionnels. Malheureusement, ça a été rejeté. Et puis après, on avait toute une série d'amendements qui avaient pour objectif, je dirais, de permettre l'usage des cryptos comme moyen de paiement et de faire un peu ruisseler le monde des crypto-actifs dans l'économie traditionnelle. Donc, par exemple, on avait un amendement sur l'exonération fiscale des paiements en crypto en carte bleue jusqu'à 3 000 euros. On avait un amendement qui devait permettre des attributions gratuites d'actifs numériques pour les salariés. On avait un amendement qui devait permettre un régime de faveur pour investir des cryptos dans des entreprises, pour acheter des actions d'entreprises, donc, comme au Portugal un petit peu. Donc on avait toute une série d'amendements effectivement qui auraient permis de favoriser l'usage des cryptos en France et de leur voilà d'avoir une fiscalité un peu plus favorable. Et effectivement les motifs de rejet qui ont été évoqués, c'est des motifs du type il est encore trop tôt. Donc on a senti que le législateur n'était pas tout à fait prêt.
C'est un sentiment de gâchis que vous avez aujourd'hui après ce choix du législateur, justement la montagne parlementaire qui accouche d'une souris une nouvelle fois.
Mais je dirais de frustration, mais on est habitué à ce que ça prenne longtemps. Hein. On l'a vu avec la loi Pacte aussi il y a quelques années. On avait déjà voulu aller plus loin, ça avait pris du temps. Donc voilà, en France, on est habitué à ce que ce soit un petit peu lent.
Le seul argument qui a été mis en avant par les parlementaires, c'est il est trop tôt ou il y a un peu plus d'arguments quand même, Thibault ?
Non, c'est quand même celui qui est revenu, en tout cas sur tous les rejets. Donc il est trop tôt, il serait trop tôt. C'est peut-être vrai, on est sur un marché qui est jeune et l'argument de dire qu'il faut prendre du temps pour encadrer tout ça et le faire correctement, il est recevable. Par contre, il ne faut pas qu'on entre dans le champ où on confond passivité et patience, parce que pendant que nous, on prend le temps de le faire, il y a d'autres pays qui avancent sur le sujet et les autres pays ne nous attendront pas. L'innovation ne nous attendra pas non plus, on n'attendra pas que la France se positionne pour avancer. Donc il faut juste éviter de créer un retard qui s'avère être irrattrapable. C'est ce que Pierre Person a mis en avant à la fin de ses rejets, donc espérons qu'il ait été attendu.
Bon, un dossier qu'on va suivre, donc le dossier fiscal. On verra si ce thème vient aussi dans la présidentielle. Ce ne sera pas un thème majeur, certes, mais enfin, Pierre Person pourra éventuellement le pousser, puisqu'on verra s'il se représente d'ailleurs à la députation. Ce sera peut-être pour ceux qui suivent l'univers des cryptos un enjeu à part entière. À suivre donc, tiens, Facebook, on va en parler. Facebook qui étonne, d'abord parce que Facebook va peut-être changer de nom dans quelques jours. On vous expliquera tout dans un instant. Mais surtout, Facebook étonne avec le déploiement du wallet, du portefeuille numérique crypto nommé Novi. Ce portefeuille de crypto créé par Facebook ne sera pas déployé avec sa propre monnaie Diem, mais avec un autre stablecoin adossé sur la valeur du dollar, le Paxos Dollar. Pourquoi Facebook, Claire, veut-il lancer ce wallet avec une autre crypto que la sienne ?
Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la validation pour lancer la leur. Donc là, ils étaient face à un choix assez basique, c'est-à-dire que soit ils attendaient et ils ne lançaient rien tant qu'ils n'avaient pas le feu vert du régulateur américain, soit finalement, en attendant ce feu vert, ils essayaient de lancer d'autres initiatives, comme ce wallet. Et dans ce cas-là, il faut bien trouver d'autres stablecoins, d'autres crypto-monnaies à mettre dans ce wallet. Et donc, ils ont fait le choix d'aller vite, ce qui ne veut pas dire qu'ils renoncent au projet Diem. Hein. Ils ont annoncé qu'ils gardaient, qu'ils continuaient leur soutien à ce projet-là. Mais ils avancent aussi à côté pour ne pas prendre du retard, justement. Et donc on assiste là à ce deal avec Paxos qui leur permet d'accélérer sur le sujet et de se positionner aussi un petit peu comme un acteur financier désormais.
Pourquoi la régulation à ce stade en tout cas Thibault est aussi dure avec Facebook et notamment vis-à-vis de leur crypto-monnaie le Diem?
Déjà il y a une crise de confiance entre Facebook et le régulateur américain qui remonte à avant leurs initiatives crypto. On leur reproche beaucoup de choses. La première étant de dire qu'il est absolument inconcevable que Facebook soit en mesure de gérer correctement une crypto-monnaie ou plus globalement un système financier après les différents scandales qui ont été les leurs dans le passé. Ensuite, on leur reproche aussi leur manque de transparence. Le fait est que, encore une fois, ce wallet, ils le lancent un petit peu dans leur coin en sachant pertinemment que tout n'est pas en parfait accord avec le cadre réglementaire actuellement en vigueur. Donc c'est tout ça qui fait un petit peu peur aux régulateurs. Et c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, on manque de visibilité sur finalement, si demain, ils arrivent à mettre en place toutes leurs idées, qu'est-ce que ça peut donner une crypto-monnaie de Facebook, un système de paiement ou un système financier piloté par Facebook. C'est quoi les limites, c'est quoi les conséquences que ça aurait? Ça, aujourd'hui, on manque de visibilité pour le dire.
Avec un nombre d'utilisateurs absolument critique, hein, évidemment, chez Facebook, ce serait un véritable game changer pour la finance, pour peut-être même le système monétaire. Bon, on va peut-être pas fantasmer complètement encore, mais voilà. Facebook, d'ailleurs, il va bientôt falloir apprendre à dire autre chose. Ce sera un nouveau nom. Vous passerez pour un vieux si vous dites Facebook, puisque Facebook pourrait d'ailleurs, dès la semaine prochaine, nous annoncer changer de nom et dévoiler peut-être son nouveau nom. Mark Zuckerberg, en effet, souhaite inclure dans le nouveau nom de Facebook son futur grand projet transformant. Il veut que Facebook devienne un métaverse. Alors, on n'est pas averse au jargon ici, et donc pas averse au métaverse. Mais si vous pouviez nous expliquer de quoi il en retourne, ça nous aiderait. C'est quoi le métaverse, Thibaut ?
Alors, pour faire très simple, le métaverse, c'est un monde parallèle, totalement virtuel. La limite entre la réalité et la fiction. Il y a un film que vous connaissez certainement qui s'appelle Ready Player One, qui est un parfait exemple de ce que pourraient être les métaverses. C'est pas un concept qui est nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années. Il y a déjà eu des jeux notamment qui utilisent ce concept-là. Mais aujourd'hui, avec notamment l'apparition des NFT, on commence à avoir des outils et des technologies qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans cet univers et de rendre en fait des potentielles applications crédibles pour l'avenir. Et c'est là que Facebook veut se positionner, donc à voir ce que ça donnera.
Et concrètement, ça ressemblera à quoi ? C'est-à-dire qu'on chatterait, on dialoguerait sur un réseau social, on aurait face à nous des avatars de tous les côtés, on nous montrerait des paysages, ce serait plus des images sur un téléphone, mais un véritable monde qui s'ouvrirait devant nous, sous nos yeux, en trois dimensions. Comment est-ce que ça se traduirait physiquement presque ?
Ça peut prendre des formes différentes, mais l'idée du métaverse par rapport à un jeu traditionnel, ce serait vraiment d'avoir une immersion totale en fait, où on est à l'intérieur de ce jeu, dans un monde qui serait parallèle à celui qu'on connaît actuellement, qui est la réalité.
Claire, je fais appel à votre rationalité, Claire. Est-ce que vous pensez qu'un jour on va tous vivre dans un métaverse et que notre quotidien, le réel, va devenir digital ?
Le réel est déjà un peu digital aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers où on passe du temps devant nos ordinateurs. Je pense que les métaverses seront amenés à prendre plus de place dans le monde d'Internet, effectivement, et que on va avoir peut-être plus d'immersion, on va avoir des univers plus complexes. On voit aujourd'hui que dans les métaverses qui sont financiarisés, il y a des entreprises qui construisent leurs locaux, par exemple, et qui tiennent des événements sous format numérique de manière très innovante. Finalement, on n'est plus simplement sur un Zoom, mais on a des sortes de locaux virtuels dans les métaverses. Donc, effectivement, il y a une expérience utilisateur qui est intéressante et je pense qu'on peut se projeter. De là à dire qu'on va tous vivre nos journées dans nos canapés avec un casque de réalité virtuelle, je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait.
Quand le virtuel devient une matière première à part entière, c'est très intéressant. On va suivre de près, bien sûr, cette transformation de Facebook et puis son nouveau nom là, à la surface des choses. Tiens, on a vu passer cette annonce tout à l'heure de CoinHouse qui nous dit proposer un produit de paiement avec un taux fixe à 5% parce que ce produit à taux fixe de 5% est adossé à une crypto-monnaie qui s'appelle Tether, on dit le Tether, c'est ça Claire ?
Oui, c'est l'USDT, c'est le stablecoin dollar.
D'accord, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui proposer, dans un monde à taux si bas d'ailleurs, un rendement fixe de 5% comme le promet en tout cas CoinHouse aujourd'hui, cet après-midi, le communiqué est paru il y a quelques heures à peine.
Alors, je comprends que quand on n'est pas habitué aux cryptos, 5% ça paraît énorme, parce qu'on est habitué à des livrets à plein de produits financiers qui en fait sont en dessous du 1%. Néanmoins, dans les cryptos, 5% c'est très classique. C'est même plus bas que ce qu'on peut trouver sur d'autres produits financiers et on voit plein de plateformes d'échange qui aujourd'hui proposent ce type de solution avec des taux qui varient entre 4% jusqu'à même 10% pour certains. Et donc pour une plateforme comme CoinHouse, c'était tout à fait nécessaire de proposer ce genre de produit pour attirer une clientèle plus large, pour suivre le marché, pour attirer des investisseurs à la recherche de rendement. Donc c'est très logique et l'USDT, c'est le stablecoin dollar qui a la plus grande capitalisation à ma connaissance. Donc c'est finalement très logique là aussi qu'ils choisissent ce stablecoin.
Mais si c'est adossé au dollar, c'est que c'est pas très volatile. Justement, stablecoin, c'est stable et pourtant rendement promis fixe de 5%. C'est là que je comprends pas comment se construit ce rendement.
Alors, en fait, ce rendement, il se construit en allant investir dans des produits crypto, par exemple, en allant investir dans la finance décentralisée. Et aujourd'hui, il se trouve que l'écosystème crypto a une croissance très importante. Et donc, c'est ça qui permet ces rendements très importants. Si le marché devient extrêmement mature, peut-être que dans 50 ans, on n'aura plus du tout les mêmes rendements, sans doute même avant. Mais effectivement, comme on est sur un marché en forte croissance, c'est assez facile, en tout cas, c'est possible d'aller chercher des rendements comme ce 5%.
Bon, après, attention toujours au ticket d'entrée et on ne nous parle pas de rendement garanti et ça, on le rappelle toujours. Hein, évidemment, 5% fixe, ça ne signifie pas forcément garanti. En tout cas, cette proposition et ce nouveau produit par CoinHouse adossé au Tether. Vous suivez le Tether, vous, l'analyste technique parmi les crypto-monnaies, ou comme c'est adossé au dollar, ça ne présente finalement aucun intérêt.
Oui, alors, juste pour préciser votre question à l'instant, Claire, ça va être l'unité de compte, en fait, l'USDT. Derrière, dans le fond, il y a un prospectus, ils ont tout un tas d'investissements qu'ils ont prévus pour aller chercher du rendement dans l'environnement de la blockchain, des cryptos. Et c'est travaillé. Donc, voilà, le fait que ce soit adossé à un stablecoin, c'est plutôt pour le côté rassurant. C'est l'unité de compte, mais derrière, il y a une vraie politique de gestion, et c'est ça qui est intéressant, et bon, on verra bien ce que ça donne, quoi. Mais effectivement, les 5%, sauf effondrement du marché crypto de 90%, ils devraient pouvoir les sortir.
Oui.
Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés, et puis ils ne sont pas les seuls à proposer ce genre de produit. Je crois que Thibaut, à nos côtés, aurait son mot à dire aussi sur la question avec un produit que vous proposez également, Thibaut Boutroux. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tous les trois sur le plateau de BFM Business. Je crois que l'arbre tordu a fait sa vie. Vous avez été là plus un arbre tordu qu'un arbre droit qui finit en planche aujourd'hui, Thibaut. Bravo pour votre première sur BFM Business. Et on espère vous retrouver très bientôt. Vous êtes à la tête des opérations pour Just Mining, aux côtés bien sûr de Wayne Simonin, que l'on retrouvera dès la semaine prochaine. Un grand merci Claire de nous avoir accompagnés une nouvelle fois. Remise sur pied Claire, après quelques jours au fond de son lit. Merci de nous avoir accompagnés. Cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG, Vincent Gann à nos côtés régulièrement. Merci Vincent. TradingView France, à très bientôt. Bitcoin toujours à plus de 63 000 $ en ce moment. Le CAC 40 est proche des plus hauts du jour, 6750 points. On va débriefer cette nouvelle séance et semaine boursière. Dans un instant, nos experts du club vont nous rejoindre sur BFM Business. On est à vos côtés jusqu'à 18h. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.